agir dans nos cœurs et dans nos vies. On m'a demandé de vous parler de la louange ce matin. Et comme par hasard, je ne sais pas pourquoi, c'est un de mes thèmes préférés. Je sais que je peux prêcher aussi sur un tas d'autres choses parce que la Bible parle sur un tas d'autres choses. Alors merci de m'accueillir dans votre communauté. Je suis émerveillé de voir ces magnifiques locaux. C'est aussi une déclaration de foi. C'est que vous croyez en l'avenir, c'est que vous croyez qu'il faut préparer des choses pour le Seigneur, pour témoigner dans la région, mais aussi pour le louer et l'adorer. Alors c'est juste formidable de pouvoir partager un petit moment de votre parcours et de vivre cette matinée avec vous dans la louange, la prière et la parole de Dieu. Mon thème ce matin, c'est « Vision pour la louange et l'adoration ». La louange et l'adoration personnelle et communautaire. J'avais posé une fois la question à un groupe de jeunes, ils étaient 13, 14 ans, une vingtaine. Je leur ai posé la question, qu'est-ce que c'est la louange pour vous? Et j'étais catastrophé d'entendre la louange, c'était quasiment unanime, la louange c'est la demi-heure avec laquelle on commence le culte. Alors, moi, ça m'a pas trop fait rire, parce que je leur ai dit, qu'est-ce qu'on leur a fait pour qu'ils aient cette impression-là? C'est la demi-heure avec laquelle on commence le culte. Vraiment? La première fois qu'on trouve le mot « adorer », c'est dans Genèse, chapitre 22, verset 5. C'est le contexte du sacrifice d'Isaac. Après 3 jours de marche, Abraham, son fils Isaac et un groupe de serviteurs plus un âne s'étaient dirigés vers les montagnes de Morija. Et Abraham dit à toute son équipe, restez ici, nous allons monter sur la montagne pour adorer. Et dans sa tête à Abraham, c'était pas adorer, c'était pas 3 chants rapides, 2 chants lents, quelques prières. Quand on est charismatique, un chant en langue, voire une prophétie, non, pour Abraham, dans sa tête, c'était mettre sur l'autel ce qu'il avait de plus précieux, son fils, la promesse qu'il avait attendue pendant 1 siècle. C'était ça l'adoration, c'était se mettre plus que lui-même sur l'autel, parce que je pense que s'il avait pu donner sa propre vie, il l'aurait fait à la place d'Isaac. Nous, on connaît la fin de l'histoire, n'est-ce pas ? Il n'y a plus de suspense pour nous. Mais l'adoration, c'est plus que simplement des chants, même si c'est bien d'avoir des beaux chants, c'est plus que des prières, et c'est magnifique de pouvoir se prier de manière spontanée, des prières de notre cœur. C'est vraiment l'offrande de nos vies. Il y a bien des années en arrière, nous vivions dans un petit village sur les hauts de Lausanne où nous avions un groupe de prières. Et ce groupe de prière, il était un peu disparate, mais nous étions devenus des amis et nous aimions nous retrouver régulièrement pour louer Dieu et pour prier ensemble et lire la parole de Dieu. Et dans ce groupe, il y avait un couple qui avait un enfant et ils en attendaient un deuxième. Et un beau jour, lors d'une rencontre de prière, l'épouse qui était enceinte nous annonçait que suite aux examens, on avait décelé une grave malformation cardiaque. Alors à l'époque, les échographies, les systèmes n'étaient pas aussi perfectionnés qu'aujourd'hui. Donc c'était un diagnostic qui avait été posé et il fallait le confirmer à la naissance. Alors on a prié, on espère, on croit que Dieu est un Dieu des miracles et en même temps, on sait qu'il est le souverain de l'univers. Et puis un beau jour, cet enfant est né. C'était une petite fille magnifique. Mais malheureusement, le diagnostic a été confirmé. L'espérance de vie, c'était quelques heures ou peut-être 3 semaines maximum. Et le papa et la maman, alors que la maman était encore à la maternité, ont souhaité qu'on se retrouve avec quelques-uns du groupe de prière pour pouvoir dire merci au Seigneur pour le don de cette vie et accueillir cet enfant. Je crois que je me souviendrai toute ma vie de ce qui s'est passé à ce moment-là. J'avais ma guitare Et on était dans cette chambre d'hôpital. J'ai pris quelques chants de louange. Le papa tenait sa petite fille dans ses bras. Il y avait des larmes. Mais il y avait aussi une adoration. Il y avait une reconnaissance pour dire merci pour le don de cette vie. On ne savait pas si elle était présente dans ce monde pour quelques heures, quelques jours ou quelques semaines. Et j'ai réalisé combien, aux yeux de Dieu, une vie aussi courte soit-elle est précieuse. Il n'y avait pas d'amertume, il n'y avait pas de colère, il y avait de la reconnaissance, malgré les larmes. Et ce n'est pas des moments difficiles, pas faciles où on doit conduire la louange, où notre adoration s'élève vers Dieu. Mais avec ce petit groupe de prières, on l'a fait. Et puis, cette petite fille qui s'appelait Célia est partie. Et dans ce petit village où il y avait beaucoup de bons protestants qui protestaient pas beaucoup, il y a eu une cérémonie d'adieu et le village entier était rassemblé avec des haut-parleurs sur l'extérieur pour que ceux qui n'avaient pas pu rentrer dans l'église puissent entrer. Et ça a été un moment aussi intense, un moment fort. Et puis le temps a passé. Les villageois ont vu la solidité de la foi de ce couple. Je crois que c'était juste la grâce de Dieu. Et ils sont venus demander au papa s'il ne voulait pas devenir syndic du village. Et il a accepté, il a fait plusieurs mandats. Et une histoire de grâce où les bénédictions s'enchaînent, la maman s'est retrouvée enceinte à nouveau et ils ont eu une petite fille qu'ils ont appelée Clémence. Quelle histoire merveilleuse! Comment Dieu peut transformer un drame en bénédiction? Et ce qu'on sait aussi au travers de l'histoire biblique, c'est que sur le lieu même où Abraham a offert en sacrifice son fils, enfin il était prêt à l'offrir, et c'est devenu le lieu où Salomon a bâti le temple. Et aujourd'hui, le mont du temple, c'est la plaque tournante du monde spirituel. Comment développer une vie d'adorateur? D'abord en offrant nos vies en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est plus que chanter des chants ou dire des prières, même si c'est bien de le faire. Et moi, je le fais. Mais c'est d'abord faire l'offrande de nos vies. Et en prenant du temps pour le faire personnellement. Et il s'agit avant tout d'une relation. Et si je veux que ma relation avec Dieu grandisse, il faut que j'investisse un peu de temps. Si je veux du temps avec ma femme, il faut que quelquefois je l'inscrive dans mon agenda. Mais elle n'aime pas du tout l'idée d'être une case dans mon agenda. C'est très masculin, ça. Il m'arrive de prendre ma guitare et de louer Dieu simplement, de prendre un psaume, de chanter spontanément dessus, de prendre des morceaux connus ou improviser des chants. Chacun d'entre nous, on doit trouver un petit peu notre truc. Tout le monde n'est pas musicien, ne joue pas d'un instrument, mais tout le monde peut lire un psaume ou dire une prière personnelle en étant à l'écoute de Dieu. C'est rare également, mais ça existe. Il y a des personnes qui n'aiment pas du tout chanter. J'en ai aperçu quelques-unes quelquefois. Je suis tombé dessus. Même si la Bible nous exhorte à plusieurs reprises à chanter à l'Éternel. Alors, il y a toujours la possibilité au moins de lire un psaume ou de dire une prière. Il y a d'autres formes de louange aussi, d'adoration, qu'elles peuvent utiliser. Il y a des personnes qui sont douées dans le dessin, dans l'art floral, qui sont créatives d'une manière ou d'une autre, et on peut aussi développer notre louange personnelle. Pour que notre louange personnelle grandisse, elle a besoin aussi d'être nourrie. Sinon, on va se dessécher. C'est comme beaucoup d'autres choses dans la vie chrétienne. Alors l'idée, ce n'est pas de devenir des religieux, mais c'est d'avoir une relation avec Jésus pour lui dire que nous l'aimons et qu'on veut qu'il soit au centre de notre cœur. Frère Laurent, c'était un chrétien du Moyen-Âge, disait que chacun d'entre nous peut être comme une chapelle, ou qu'on pouvait louer Dieu dans une chapelle physique, mais que notre cœur pouvait devenir la chapelle du Seigneur et être le réceptacle de la présence de Dieu. J'aime beaucoup cette image. Peut-être on peut s'aménager des temps spéciaux et créatifs. Au psaume 138, il est écrit « Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. » Et on peut s'arrêter sur un psaume comme celui-là et se dire « Mais c'est quoi les promesses de Dieu pour ma vie, pour ma famille ?» Et se les rappeler et marcher dans ces promesses. L'adoration, c'est ce qu'on fait, mais aussi ce qu'on choisit de ne pas faire par amour. Quand on aime quelqu'un, on sait exactement quelles sont les choses qui le blessent ou les choses qui bénissent cette personne. Et si je passe une demi-heure à louer Dieu à haute voix et que dans ma journée, je me mette à critiquer un frère ou une sœur ou à répondre de manière malhonnête à ma femme ou à mes enfants, cette louange-là, c'est que du vent. Je dirais que la louange, c'est un style de vie. Ce n'est pas seulement ce que je fais dans des moments mis à part dans ma journée, mais c'est un style de vie qui inclut la reconnaissance, l'émerveillement, la paix dans les relations. C'est une attitude de cœur qui se manifeste dans mon travail, mes relations et mes pensées. La louange, et ça c'est le deuxième volet, c'est aussi un choix communautaire. C'est un choix communautaire. Qu'est-ce qu'on entend par louange? Où est-ce qu'on veut aller? Qu'est-ce qu'on veut vivre ensemble? Une église qui loue est une église qui laisse de la place à la présence de Dieu. Et la présence agissante de Dieu produit le salut, la restauration, la croissance. Moi, j'ai reçu au travers des années de nombreux témoignages de personnes qui se sont converties dans les soirées JEM au palais de Beaulieu, lorsqu'on faisait la louange régulièrement là-bas. Des gens venaient, ils ne savaient pas qui conduirait la louange ou qui serait l'orateur, mais ils avaient soif de la présence de Dieu. Et ça produisait des fruits qu'on ne pouvait simplement pas fabriquer, mais qu'on a cueillis au long des années. Il y a des choses qui remplissent les églises et il y en a d'autres qui les vident. La louange est une de ces choses qui les remplissent. Mais un culte ennuyeux, une suite d'annonces interminables, une prédication sans vie et sans onction, ça va vider les églises. Alors aussi, nous sommes confrontés à une église multigénérationnelle. Cela demande de la réflexion, un travail pour s'adapter au milieu où nous nous trouvons. Qui sommes-nous? Qui voulons-nous toucher? Cela demande un consensus au niveau du style. Mais c'est en même temps un véritable privilège d'avoir différentes générations, plusieurs cultures, venant de couches sociales différentes. Ça donne vraiment du piment et de la saveur. Et puis d'avoir une variété aussi au niveau de la louange, c'est intéressant. Pas toujours avoir la même personne. Je dis ça parce que j'ai déjà passé une journée avec des équipiers de louange et puis on va encore en vivre deux autres soirées. Donc je découvre un petit peu qui sont ces personnes, leur cœur, leur amour pour leur Seigneur et leur désir de servir la communauté. Pourquoi la louange? Ça, c'est une bonne question. Pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait? D'abord, nous sommes créés et appelés à célébrer la gloire de Dieu. On trouve ça dans Éphésiens chapitre 1. Nous sommes appelés à célébrer la gloire de Dieu. Et au psaume 149, nous sommes exhortés à louer l'Éternel à chanter à l'Éternel un cantique nouveau, à chanter ses louanges dans l'assemblée des fidèles. Alors c'est aussi un commandement. Mais si je fais les choses justes, parce que c'est un commandement, je vais à nouveau me retrouver juste dans un rituel religieux, voire légaliste. Et c'est toute la différence si je le fais par amour pour le Seigneur. C'est donc un appel, un commandement. Louez l'Éternel, louez le nom de l'Éternel, louez le serviteur de l'Éternel. Au psaume 135, la louange, c'est une idée de Dieu. Pas une idée de Rolf Schneider ou de Jeunesse en Mission ou de qui que ce soit d'autre. Ésaïe 43, 21, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Alors quand on se pose la question, pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait ? Est-ce qu'on le fait parce que les autres églises le font ? On a toujours fait comme ça et on ne sait pas comment faire autrement. Ça fait venir plus de monde. Les jeunes aiment ça. Les vraies questions ne devraient pas être plutôt est-ce que c'est vital, intentionnel pour notre communauté, pour l'expression de notre foi ? Est-ce que ça porte des bons fruits ? En fait, Dieu cherche des adorateurs, il ne cherche pas l'adoration. Ça, c'est tout le texte de Jean chapitre 4, le récit de la rencontre entre Jésus et la femme samaritaine au bord du puits de Sichar, Sichem, enfin c'est une bourgade de Sichem, Naplouse actuelle. Et Jésus parle à cette femme samaritaine et lui dit « L'heure vient, elle est déjà venue, où les adorateurs adorant le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père recherche. » Alors Dieu ne recherche pas l'adoration parce que l'adoration au ciel, elle est parfaite. Celle des anges, ils ne font pas de fausses notes, ils chantent juste tout le temps, elle est puissante, ils sont des millions à le faire, ça doit sonner. Non, il ne cherche pas l'adoration, il cherche des adorateurs. Ton cœur et le mien. Dans la Bible, il y a aussi la chorale de Josaphat qui nous parle du combat qu'il y a dans la louange. Il y a une véritable bataille qui se mène au travers de la louange. Alors, dans les églises, on peut avoir des merveilleuses planifications sur 5 ans ou 10 ans, des managers pointus pour la gestion des programmes et des finances, des équipiers et des équipes serviables. Mais sans louange et sans prière, nous n'allons accomplir que des programmes. Alors, gloire à Dieu pour les dons qu'ils sont donnés pour faire fonctionner la louange. Mais le fondement reste la prière et la louange. Je repense à la remontée de l'Arche à Jérusalem dans 2 Samuel 6. Si on veut servir Dieu, nous sommes appelés à le servir aussi à la manière de Dieu. Le récit dans 2 Samuel, je le résume un petit peu. David fait remonter l'arche de l'Alliance qui était dans la maison d'Obed-Edom pour qu'elle revienne à Jérusalem pour la mettre dans le tabernacle. Et la première fois, ils font les choses à la méthode des bons managers. Ils trouvent un char neuf, ils organisent tout pour que les choses soient faites tip-top, en ordre. Et on connaît l'histoire. Lorsque le char à bœuf se met à pencher, Uzza met la main. Et comme ce n'était pas un sacrificateur, il n'était pas censé toucher cette arche. Enfin, même les sacrificateurs devaient les porter avec les barres. Et puis David prend peur. Et il arrête tout. Et il réfléchit pour faire les choses à la manière de Dieu. Et la seconde fois, il fait les choses à la manière de Dieu. Les Lévites portent l'arche avec des barres sur leurs épaules, comme ça avait été prescrit. Et là, c'est une grande fête, une grande joie. Et ça devient une grande bénédiction pour le peuple. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il y ait d'organisation. Moi, je préfère aller dans un endroit où c'est organisé. Je voyage un peu partout dans le monde. Hein. Je fais la différence entre des lieux où c'est organisé et pas organisé. mais il nous faut faire les choses à la manière de Dieu. Et puis la louange, c'est un engagement. On se bat quelquefois contre la passivité dans une société de divertissement où les écrans, les images sont omniprésentes. On peut être tenté de transformer la louange en un divertissement. La louange, c'est la louange de tous, c'est la louange du peuple de Dieu. Ce n'est pas la louange du groupe de louanges, même si ça nous aide énormément d'avoir un groupe de louanges qui se prépare, qui répète, qui travaille. Ça nous aide énormément, mais c'est la louange du peuple de Dieu. Et une louange de qualité comme une prédication demande du temps et des moyens. Et si on veut reconnaître l'importance d'une chose, il faut observer les moyens qu'on se donne pour y arriver. Alors oui, il y a ceux qui ont un appel spécifique à servir Dieu dans la communauté par leurs dons, dans ce domaine, mais l'adoration, la louange, c'est l'affaire de tous. Et puis il faut que notre louange soit accessible à tous, accessible à ceux qui viennent déjà depuis des années, qui connaissent le Seigneur depuis longtemps, mais aussi accessible aux non-églisés. Et il ne faut surtout pas dire à un bon vaudois qui ne fréquente pas l'Église, qui n'a pas donné son petit cœur à Jésus, que c'est un païen, mais il faut lui tendre des perches et lui parler un langage qu'il comprend. Et ce langage qu'il comprend passe aussi par le choix de nos mots dans notre répertoire. J'apprécie quand il y a la liberté. Ce matin, on avait des bannières, on était invités à saisir la liberté que Dieu nous donne. Il y a un livre qui m'a beaucoup impressionné, c'est celui de Bob Sorge, sur la louange. Enfin, il en a écrit plusieurs. Et j'ai rencontré Bob Sorge il y a quelques années en arrière. Il était pasteur, prédicateur, musicien. Et assez talentueux jusqu'au jour où il a réalisé qu'il avait un problème sur les cordes vocales. Et il s'est fait opérer, il dit dans son témoignage, l'opération a réussi, mais ça a été un désastre, parce qu'il ne peut plus parler. Donc il se fait très peu inviter dans des conférences, parce que avec un micro, un équipement pour qu'il entende très fort sa voix dans les oreilles, il peut parler en chuchotant une heure maximum. Donc le restant de la journée, pour communiquer avec lui, il a un petit carnet, et il écrit dedans et puis il nous fait des signes et des gestes. Et il nous dit, j'ai découvert l'adoration suite à cette opération. Et il nous parle des anges qui adorent Dieu. Le ministère principal des anges, c'est d'être dans la présence de Dieu, dans l'adoration. On peut lire ça dans l'Apocalypse, on peut lire ça dans Ésaïe chapitre 6. Et on voit un ange, un seul. On lit ça dans 2 Rois, chapitre 19. Un seul ange a éliminé 185 000 soldats syriens qui étaient venus attaquer Ézéchias. Un seul ange. C'est costaud, un ange. Hein, un seul, 185 000. Et puis, on ne le voit plus réapparaître pendant des siècles. Et il réapparaît encore une fois. Marie lui annonce la venue du Messie. Et on le voit disparaître pour plusieurs siècles. Mais le reste du temps, qu'est-ce qu'il fait? Il est devant la présence de Dieu et il adore. C'est l'appel le plus élevé que nous puissions avoir individuellement et communautairement. La louange, c'est aussi quelque chose de saint. Sinon, ce n'est que du remplissage en attendant les choses sérieuses, c'est-à-dire le prédicateur. Il y a un extrait de la prophétie d'Amos pour Israël qui vivait dans le péché et qui continuait à adorer Dieu, à offrir des sacrifices comme si de rien n'était. On lit ça dans Amos 5, les versets 21 à 24. Dieu parle et puis c'est assez cash. Il dit « Je hais, je méprise vos fêtes, je ne puis sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes. Mais que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un courant qui jamais ne tarit. En fait, s'il y a de l'infidélité dans nos cœurs, la louange, toute la louange, aussi merveilleuse soit-elle qu'on pourrait offrir au Seigneur, pour Dieu, c'est que du bruit. Question-réponse qu'on me pose souvent quand on parle de louange dans l'Église. Au niveau pratique, on me dit souvent, est-ce qu'on a vraiment besoin de tous ces instruments, de la sono, toute cette technique ? On vous a jamais posé cette question ? Moi, je dis non et oui. Oui et non. Ça rappelle quelqu'un ? Alors non, parce que je peux louer Dieu juste a cappella, avec ma voix, ou un groupe de personnes a cappella, ou juste une guitare. Je peux très bien le faire. Et oui, parce que Dieu mérite qu'on fasse le maximum pour lui. Et dans la Bible, on a les deux cas. Dans 2 Chroniques chapitre 5, lors de l'inauguration du temple de Salomon, il y avait 120 sacrificateurs sonnant des trompettes. Ce matin, on avait un instrument avant, hein, un seul. On l'entend, hein, sans micro. Vous imaginez, 120. Ça devait déménager. Et puis le psaume 6, dans l'introduction, nous dit « Psaume avec accompagnement de harpe à 8 cordes ». C'était minimaliste pour une harpe. Hein. Bon, les guitares en ont 6, quoi. Hein. Les ukulélés, plus que 4. On peut encore faire quelque chose, mais c'est vraiment minimum. Donc il y a les deux. Ce n'est pas l'un ou l'autre. C'est les deux. Et il y a deux visions de l'expression de la foi qui sont bien connues dans toute l'histoire de l'Église qui s'affrontent. Autrefois, il y avait d'un côté Cluny. C'était le centre du monde chrétien jusqu'à la construction de Saint-Pierre de Rome. Rien n'est trop grand, rien n'est trop beau, rien n'est trop luxueux pour la gloire de Dieu. Il mérite le meilleur, de la dorure si on peut. Les plus belles choses, le plus bel art, c'est pour lui. Et puis de l'autre côté, il y avait le mouvement cistercien, initié par Bernard de Clairvaux. C'était la pauvreté, la simplicité, l'humilité. Un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui mange un peu de soupe avec des racines, qui vit dans une cabane sombre sans chauffage, passe ses journées dans la prière et meurt d'épuisement à 40 ans. Ça, c'était le top idéal du chrétien cistercien. Mais cette tension, elle existe encore aujourd'hui dans les milieux protestants et évangéliques. Entre la théologie de la prospérité et l'austérité calviniste, il y a tout un monde. Calvin, lors de la Réformation à Genève, il avait fait fondre les tuyaux de l'orgue de la cathédrale parce que la musique d'orgue, je ne parle pas de guitare électrique, hein, d'orgue, ça distrait trop. Alors il autorisait le chant des psaumes, les psaumes huguenots, magnifiques, à l'unisson, parce qu'à 4 voix, déjà, c'était une trop grande distraction. Vous voyez, on a tout l'éventail. Et puis dire oui également, parce que la connexion à notre culture aujourd'hui est importante. Moi, je ne veux pas d'une église où lorsque les gens en franchissent le seuil, ils aient l'impression d'arriver en 1930. Dieu est éternellement jeune. Il n'écoute pas que du Handel et du Bach. Je crois d'ailleurs qu'un de ses groupes préférés, c'est un groupe de rap. Ah oui, oui, Ésaïe chapitre 6. C'est Ésaïe qui dit « L'année de la mort du roi Ozias, j'étais dans le temple et j'ai vu le Seigneur sur un trône très élevé. Les séraphins tournaient tout autour du Seigneur. Ils avaient 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. » C'était du rap ou du slam, c'est comme on veut. Et c'était un de ses groupes préférés, parce qu'on le retrouve dans Ésaïe chapitre 6, mais on le retrouve dans l'Apocalypse. Apparemment, le Seigneur ne s'en est pas lassé. Et puis, le texte d'Ésaïe continue. Les fondements du temple étaient ébranlés au son de la voix que j'entendais. Il y avait une grosse basse, certainement, qui faisait bouger les fondements du temple. En fait, cette louange-là, ce n'était pas de la musiquette. C'était des proclamations intenses sur la sainteté de Dieu. Une question qu'on me pose aussi souvent, c'est pourquoi il y a tous ces chants nouveaux ? Alors, une partie de la réponse, ce serait de dire, premièrement, la Bible nous commande à plusieurs reprises de chanter un chant nouveau au Seigneur, comme au psaume 96 et au psaume 98. Chanter au Seigneur un chant nouveau. Est-ce que ça veut dire qu'il est fatigué des vieux chants, qu'il n'aime pas les anciens cantiques ? Moi, je pense qu'une manière de chanter un chant nouveau, c'est justement de prendre un vieux cantique, mais de le chanter avec fraîcheur, de manière renouvelée, voire avec un nouvel arrangement. Mais je crois que Dieu veut aussi donner des choses nouvelles. Bien sûr, dans une église, il faut qu'on puisse bâtir un répertoire. S'il n'y a pas de suite et que tous les dimanches, on a 3 chants nouveaux et qu'on n'arrive jamais à s'y retrouver, on va être perdu, on est d'accord. Mais le Seigneur aime les chants anciens et les chants nouveaux. D'ailleurs, l'évangile de Matthieu, chapitre 13, nous dit, 13:52 pour le verset, « C'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. » Est-ce que tout le monde doit participer à la louange ? Est-ce que je ne peux pas rester simplement assis et attendre que ça passe ? Ça, c'est une question aussi qu'on me pose. Bon, je sens la crainte souvent, c'est est-ce qu'ils vont essayer de me pousser à faire quelque chose que je n'ai pas envie ? Alors, on se met tous debout, on va lever les mains vers le Seigneur, on va crier tous d'une même voix. Alors, personne n'a envie d'être manipulé. Mais on a de temps en temps besoin aussi d'être encouragé à sortir de notre petite zone de confort. Non, on n'est pas obligé de participer. Mais si on veut que la louange soit collective, ça demande quelquefois un pas de foi et un engagement et à sortir de la passivité. Nous étions il y a quelques années en arrière chez des amis aux États-Unis. Et ils nous ont invités pour un culte le dimanche matin dans une de leurs églises. Ils sont excusés de la taille de l'église. Pour moi, elle me paraissait assez grande déjà. Et avant d'arriver, elle s'est excusée. Elle dit, tu sais, chez nous, la louange, c'est juste 20 minutes. On n'est pas une église charismatique. Voilà, ils voulaient nous préparer pour qu'on puisse s'adapter au terrain et tout ça. Je dis, bon, ben, on va aller, c'est votre église, on va venir avec vous. Je suis arrivé, le premier chant démarre, tout le monde debout, à fond dedans, quoi. Je me dis, moi, j'aimerais que mon église, qui se dit charismatique, participe autant que ces gens-là qui ne se disent pas charismatiques. Mais pendant les 20 minutes que ça durait, tout le monde était impliqué dans la louange. J'ai appris quelque chose ce dimanche-là. Dieu désire ton cœur et le mien. Il ne cherche pas l'adoration, il cherche des adorateurs. Alors en conclusion, je dirais que la louange communautaire dépend en grande partie de notre louange et de notre engagement personnel. Si nous vivons peu de choses pendant la semaine, nous pourrons difficilement apporter le trop-plein de notre communion avec Dieu au sein de la communauté. Mais ce n'est pas une addition. Ce n'est pas une addition. Parce que Dieu se manifeste dans l'Église, Il nous dit, psaume 22, qu'il habite au milieu des louanges de son peuple. Et puis il y a cette promesse de Jésus également, que là où deux ou trois sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. En fait, la grande différence se fait si je viens en tant que consommateur en attendant d'être distrait par ceux qui sont devant, ou si je viens comme contributeur, c'est un nouveau mot, je ne sais pas s'il existe, si je viens comme contributeur, ça doit exister puisqu'on dit contribution, contributeur désireux d'apporter ma participation. Hébreux 13, verset 15, par lui, Jésus, offrons sans cesse un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Amen. Seigneur, merci parce que tu nous as appelés à te connaître, à marcher, à vivre avec toi, mais aussi à te louer, à t'adorer, à te prier, à connaître ta parole et à être individuellement et collectivement tes témoins. Je te bénis parce que tu fais de nous un peuple d'adorateurs. Nous sommes en chemin et nous voulons apprendre à mieux te connaître. Amen.